7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
La question du jour, Shell devant le tribunal de La Haye. Le pétrolier est accusé par des ONG environnementales de ne pas respecter les objectifs de l'accord de Paris sur le climat. La Cour européenne des droits de l'homme qui juge recevable la requête de jeunes Portugais voulant assigner en justice des États pour les amener à lutter davantage contre le réchauffement climatique. Sous la pression des défenseurs de l'environnement ou des simples citoyens, États comme entreprises doivent désormais composer avec la contrainte climatique. Le gouvernement français a donc annoncé la mise en place d'un délit d'écocide. Bonjour Sébastien Mabille.
Bonjour.
Vous êtes avocat au barreau de Paris. Il faut tout d'abord nous dire ce que recouvre le principe de la liberté d'entreprendre. S'agit-il d'un droit constitutionnel, puisque on considère qu'il y a là une manière d'articuler à la fois les contraintes environnementales et ce droit, cette liberté d'entreprendre?
Oui, alors la liberté d'entreprendre découle, comme la liberté du commerce et de l'industrie, de la Déclaration des droits de 1789, donc c'est protégé par la Constitution, mais ce principe n'est pas absolu et peut être tempéré par la poursuite d'autres objectifs de valeur constitutionnelle, tels que l'objectif de protection de la santé, qui a été reconnu au début des années 90, et plus récemment, dans une décision du 30 janvier 2020 par le Conseil constitutionnel, l'objectif de protection de l'environnement.
Et oui, alors c'est là où il pourrait heurter ce principe de liberté d'entreprendre avec des considérations environnementales. Ce délit d'écocide, en quoi pourrait-il consister, Sébastien Mabille?
Alors le délit d'écocide, enfin tel qu'il est proposé et qualifié par le gouvernement, est un élargissement d'une incrimination qui existe déjà à l'article L216-6 du Code de l'environnement, qui est aujourd'hui limité aux atteintes au seul milieu aquatique, c'est-à-dire aux rivières, aux lacs et aux cours d'eau, et qui serait élargi aux atteintes au sol et à l'atmosphère. Et dans le même temps, le gouvernement prévoit d'augmenter sensiblement le quantum des peines encourues, qui passerait de 2 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende à 3 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende, et avec un certain nombre de circonstances aggravantes qui seraient ajoutées, notamment lorsque l'infraction serait commise de manière intentionnelle, qu'elle aurait commis des dommages graves et irréversibles, graves et durables, pardon, au sol, à l'atmosphère et à l'environnement. Et dans ce cas-là, les peines pourraient être portées jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 4,5 millions d'euros d'amende.
C'est important ce que vous venez de dire. Vous avez dit un dommage intentionnel, il y aurait aggravation. Et alors, si c'est non intentionnel, parce que c'est cela aussi que peuvent redouter éventuellement les entreprises.
Alors si c'est non intentionnel, ce délit s'applique. Ce délit s'applique à toute faute, même la faute la plus simple, c'est-à-dire la faute d'imprudence, la faute de négligence. Néanmoins, comme cause exonératoire, c'est-à-dire comme fait justificatif pour échapper à la répression de la loi pénale, serait maintenu le fait pour un industriel de respecter son autorisation administrative, puisqu'un certain nombre d'activités aujourd'hui, que ce soit des activités agricoles, que ce soit des activités industrielles, sont soumises à l'autorisation, puisqu'elle pollue l'environnement, mais dès lors que l'industriel respecte les prescriptions de son arrêté d'autorisation, il ne serait évidemment pas poursuivi dans le cadre de cette infraction.
Et alors pourquoi un délit et pas un crime ?
Alors effectivement, les citoyens avaient proposé l'idée d'un crime d'écocide, donc passible de plus de 10 ans de réclusion criminelle, qui supposerait également d'être jugé non pas par un tribunal correctionnel, mais par une cour d'assises composée d'un jury populaire. Le gouvernement n'a pas retenu cette solution, ce qui me semble une sage décision, tout simplement parce que ce sont d'abord des personnes morales, des entreprises qui sont poursuivies dans le cadre de ces infractions, et on voit mal une entreprise jugée par une cour d'assises. D'autre part, on est sur des délits qui sont des infractions qui sont extrêmement complexes et des dossiers qui sont très techniques, qui seraient difficiles à appréhender par des jurés populaires. Et puis enfin, un crime est toujours intentionnel, c'est-à-dire que depuis la réforme de droit pénal en 1994, il n'existe plus dans notre droit français de crime non intentionnel. Par exemple, si vous tuez quelqu'un, un homicide involontaire dans le cas d'un accident de circulation,
ce n'est pas un crime.
ce n'est pas un crime, ça relève du tribunal correctionnel, ça relève du champ du délit. Mais la plupart des infractions environnementales sont de nature non intentionnelle.
Mais alors, c'est parce que on se dit que symboliquement, ça aurait pu être fort. Alors, si on prend un exemple, je vais prendre volontairement un exemple étranger, TEPCO, l'entreprise qui exploitait la centrale nucléaire japonaise de Fukushima, est-ce que celle-ci, par exemple, on aurait pu la traîner devant les tribunaux pour délit d'écocide?
Alors possiblement, il faut néanmoins démontrer une faute de négligence qui a concouru à l'infraction. Est-ce que TEPCO, le fait de n'avoir pas suffisamment assuré les protections de la centrale de Fukushima constitue une faute de négligence? C'est possible. Hein. En général, les grandes catastrophes environnementales, que ce soit l'Irika ou plus récemment Lubrizol, résultent d'une série de défaillances, de négligences, de manière parfois non intentionnelles, qui, cumulées entre elles, conduisent à la catastrophe.
Et oui, puisque vous en parlez, Lubrizol, par exemple, est-ce qu'il est possible, là, d'attaquer l'entreprise, de considérer que toutes les diligences, toutes les sécurités n'étaient pas présentes sur le site?
Alors, Lubrizol est poursuivi sur le fondement notamment de ce délit de pollution des eaux, la L216-6, hein, qui sera élargi probablement demain, puisque la Seine a été polluée par les rejets de l'incendie. Néanmoins, Lubrizol ne pourra pas être poursuivi sur la base de ce nouveau délit, puisqu'il y a aussi un principe extrêmement fort dans notre droit, qui est celui de la non-rétroactivité de la loi pénale, c'est-à-dire que la loi pénale ne joue que pour le futur et ne joue jamais pour le passé.
Ce qui veut dire que, alors par exemple, donc là on comprend bien qu'il n'y a pas de rétroactivité de ce délit pour le cas du Lubrizol, mais justement, en l'absence de ce délit, est-ce que l'entreprise, ses dirigeants aussi, seraient ou seront moins inquiétés qu'ils ne le seraient dans le futur ?
Oui, évidemment, puisque les peines qui sont courues sont aujourd'hui beaucoup plus faibles que celles qui le seront demain. Ça, c'est le premier point. Et demain également, et ça, c'est une réforme qui est en train d'être adoptée par le Parlement en ce moment, qui sera examinée par l'Assemblée à partir du 8 décembre. Demain, ce type d'infraction sera jugé par des pôles régionaux spécialisés, c'est-à-dire par des juges qui seront spécialement formés à cette matière et qui ne traiteront que les atteintes à l'environnement.
Et alors, est-ce que ce délit va être dissuasif? Parce que donc c'est bien beau qu'il y ait création d'un délit spécifique, mais est-ce que vous pensez que cela va faire réfléchir les entreprises, qu'elles vont tenter à tout prix d'éviter ce type de catastrophe?
Alors, vraisemblablement, puisque dans la proposition du gouvernement, il est prévu que le montant de l'amende, déjà extrêmement haut, hein, 375 000 euros, pouvant être porté jusqu'à 84,5 millions d'euros, peut être porté jusqu'au décuple de l'avantage qui aurait été procuré par l'infraction. C'est-à-dire que si une entreprise décide de renoncer à un investissement pour prévenir une pollution parce que cet investissement est trop cher, mettons un investissement qui coûterait 3 ou 4 millions d'euros, le montant de l'amende encourue pourrait être porté au décuple de cette économie qui aurait été générée, qui aurait conduit à l'entreprise à polluer. Donc on peut avoir des montants d'amende qui pourront monter demain jusqu'à plusieurs dizaines de millions d'euros.
Est-ce que c'est une tendance forte, le fait de doter le droit d'un arsenal législatif de plus en plus précis en matière d'environnement, Maître Mabille ?
Oui, c'est une tendance mondiale, puisque notamment sur la spécialisation des juges pour traiter ce contentieux, aujourd'hui il y a plus d'une quarantaine de pays qui sont engagés dans cette voie, dont l'Inde qui a créé des Green Courts, le Chili ou la Nouvelle-Zélande qui ont créé des tribunaux environnementaux. Il y a une demande sociale qui est extrêmement forte, qui est liée à un sentiment de quasi-impunité aujourd'hui de ce type de répression, puisqu'aujourd'hui très peu d'affaires vont jusqu'à l'audience publique, vont jusqu'au tribunal. Le montant des peines pour lesquelles les personnes sont condamnées sont extrêmement faibles et très peu dissuasives. Et donc, ça répond à une demande sociale qui est exprimée aussi par la Convention citoyenne pour le climat quand elle réclame la reconnaissance de crimes d'écocide. C'est aussi une manière de dire, mettons fin à cette impunité et réprimons ceux qui polluent la planète.
Eh bien voilà, les choses sont claires. Merci beaucoup Maître Mabille. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et au cabinet Seattle Avocat, 7h23 sur France Culture.